Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Changer le monde, se mobiliser, agir localement ou à l'échelle de la planète, mais ne pas rester les bras croisés à récriminer ou à se plaindre, c'est le sens de toutes les initiatives citoyennes que collecte cette série, modestement intitulée comme ça, Changer le monde. Par exemple, lutter contre la réduction progressive des terres fertiles, agricoles ou sauvages, grignotées par les projets immobiliers, les grandes surfaces, les aéroports ou les sociétés de chasse en créant des zones à défendre ou en se regroupant pour les racheter. L'association Terre de Liens est très active dans ce sens. Elle met en lien des petits paysans qui n'ont pas les moyens d'acheter des terres avec des citoyens plus fortunés ou en tout cas qui se regroupent. En 2017, grâce au soutien de centaines de citoyens qui ont retiré de l'argent de leur banque et investi au total 420 000 euros, l'association a donné naissance à la ferme du Scrapeau tenue par 5 jeunes personnes. Aux dernières nouvelles, si on en croit le site Reporter qui est bien informé, c'est aussi ce que veulent faire les plus fameux de nos zadistes à Notre-Dame-des-Landes. Racheter les terres qu'ils cultivent via un fonds de donation nommé la Terre en commun pour arriver à une propriété collective desdites terres. Le fonds regroupe des acteurs de la mobilisation contre l'aéroport, des naturalistes, des paysans historiques, des zadistes de base, des membres de l'association citoyenne. Il y a certes plusieurs millions d'euros à trouver, ça n'est pas gagné, mais ils en ont déjà réuni plusieurs centaines de milliers d'euros. Tout de suite, dans les pieds sur terre, c'est un peu la même idée, mais à l'échelle d'un village, en Bretagne évidemment, et je ne vous cache pas plus longtemps que c'est une histoire racontée par Inès Lérault.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, et c'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai vécu entre 2015 et 2018 en Centre-Bretagne et je tournais le journal breton, une série pour les pieds sur terre. J'allais m'approvisionner à 9 km de chez moi, dans une épicerie associative sur la commune de Trémargat. Ici, il y a 200 habitants, la moyenne d'âge est de 30 ans, toutes les maisons sont habitées et la majorité des fermes sont en bio. Je me suis longtemps demandé pourquoi ça marchait si bien. Et j'ai découvert l'existence d'une SCI, ou Société Civile Immobilière, mise en place par la municipalité en 2013. Une SCI un peu particulière, faite pour acquérir des terres. Enfin, c'est ce que j'ai entendu, mais ça m'a semblé un peu confus.
Très bien, et toi ?
Alors je suis allée me renseigner chez Bruno Gégou, l'un de ceux par qui cette histoire avait commencé.
Là, on leur met du foin, on leur donne du foin tous les jours.
Ils sont tous à vous ?
Ouais. Je fais de la randonnée avec la petite balade et tout ça. Mes parents étaient agriculteurs. Ma mère était agricultrice et mon père était ouvrier couvreur. Ma mère elle faisait des vaches laitières sur le bourg là, de Trémargat. Donc moi, j'étais plus à la ferme que à faire mes devoirs. À 18 ans, j'ai arrêté l'école. Et donc après, j'ai été ouvrier agricole pendant 10 ans. Et en même temps, ma compagne de l'époque, Nathalie, qui tient le restaurant Coriandre, on a créé Coriandre en fait. C'est un restaurant sur la commune de Trémargat. Donc une période de ma vie, pendant 13 ans je crois, j'ai été cuisinier aussi. Et après j'ai rencontré Jennifer et là j'ai vraiment fait ce que j'aimais. Voilà, mes métiers d'agriculteur. Alors on a des brebis laitières et des vaches allaitantes. Voilà, tout ça en bio et en vente directe. Sur la commune. Voilà. On fait les marchés avec les fromages et les yaourts.
Vous avez été le premier bénéficiaire de la Société Civile Immobilière de Trémargat.
Ouais, on l'a créé grâce à nous en fait. Nous on devait s'installer ici sur le bourg de Trémargat avec une quarantaine d'hectares et on a eu que 20 hectares de terre. Et d'une ferme sur Kergris-Moëlou là se libérait, 20 hectares, pas loin d'ici. Et donc j'ai été voir le propriétaire. et la ferme de Poulouperie. Et il m'a dit, ouais, ma ferme est à vendre. Alors je lui ai proposé de la louer, mais lui, ça l'intéressait pas. Et puis bon, ben, c'était pas trop possible d'acheter. J'en ai parlé aux gens de Trémargat, à tous les copains là. Et on a décidé, du coup, de créer la SCI de Trémargat. La SCI est propriétaire de la ferme de Poulouperie. Et nous, on est locataires. Voilà, on paye un loyer tous les ans.
On va aller boire un café, quand même.
Okay.
C'est l'heure. 10h, c'est l'heure du café.
Bruno et Jennifer, donc, n'avaient pas les moyens d'acheter des terres. Et c'est une SCI qui les a acquises pour leur louer. D'accord. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est qui finance cette SCI. Je me suis rendue sur la côte du nord de la Bretagne, à Saint-Brieuc, dans le quartier Robien, chez Alain Lefloïc et sa compagne. Ils ont tous les deux acquis des parts de la SCI de Trémargat.
Sur le marché, donc, y a des producteurs avec qui on a des relations assez proches. Et en particulier, il y a Roger qui est un éleveur qui habite près de Rostrenin, à qui on achète depuis qu'il est venu sur le marché de Saint-Brieuc. On achète du lait, on achète des yaourts, on achète du fromage. Et en fait, il avait des petits papiers sur son étal. Et c'était un petit papier qui disait, il y a une SCI qui s'installe à Trémargat pour permettre à un couple d'éleveurs de devenir locataire sur une terre qui se libérait là-bas. Et bah, il faut pouvoir l'acheter. Pour l'acheter, on prend des parts. C'était 100 euros la part. Donc c'est l'argent qu'on prête, puisqu'on peut récupérer notre argent après, pour que la SCI puisse acheter cette terre-là. Donc là, on va prendre deux ou trois parts, en fait, via ce petit papier. La terre a été achetée grâce à nous, puis à plein d'autres personnes. Et pendant un petit peu de temps, on a eu quelques infos par mail, parce que on habite Saint-Brieuc, Trémargat, c'est trois quarts d'heure de route. Et on a été invité à un pique-nique, qui était la fête où on nous présentait la terre finalement, puisqu'on est un petit peu propriétaire d'un petit bout de la terre. Donc on y est allés tous les deux. Et à l'époque, on était les seuls urbains. Au début, la SCI quand même, elle s'est constituée beaucoup à partir de gens de Trémargat ou autour de Trémargat, de la famille, etc., tout ça. Donc on arrive là-bas, c'était sur la ferme où il y avait l'ancien agriculteur qui vendait sa terre et qui avait accepté de la vendre moins chère. Parce qu'autrement, il y a une société de chasse qui était prête à la racheter, parce que lui, il avait envie que ce soit encore un éleveur qui puisse rester sur sa terre. Et en se promenant comme ça, en faisant le tour de notre propriété commune, en fait, eh bien, il a raconté un peu l'histoire. Et c'est comme ça qu'on a compris un peu après dans quelle histoire on se retrouvait engagé un peu. Voilà. Il y a eu un deuxième projet qui est arrivé assez rapidement finalement, donc qui était pour racheter une terre qui était, elle, auparavant cultivée en conventionnel, donc très polluée, c'est du maïs. Et donc il y avait l'idée de faire un nouvel appel à participation financière. Et ça ne pouvait pas rester limité au groupe de personnes autour de Trémargat, parce que financièrement, on ne peut pas demander tout le temps aux mêmes personnes de le faire. Donc c'était important d'élargir. Et donc, on s'est dit, eh bien, on va organiser une réunion à Robien, dans notre quartier, de façon à élargir le financement. Donc, il y a eu ce deuxième projet qui était en route, avec donc l'installation de Baptiste en maraîchage. Et donc, on a organisé cette réunion à Robien. Il y a eu une quarantaine de personnes qui sont venues. Les gens de Trémargat ont expliqué de façon très simple. Et puis... sur l'importance de ce qu'ils font pour sauvegarder en fait notre patrimoine commun, qui est la campagne, qui est la terre. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plupart des villages sont en train de mourir. En fait, il n'y a plus de services publics, plus de commerce, plus d'écoles, etc. Et Trémargat, c'est une petite commune où les habitants ont décidé à un moment donné de se prendre en main. Ils ont créé un bar associatif, une épicerie associative, il y a un restaurant bio qui fonctionne très bien. Et puis, il y avait ce projet, c'était de dire il faut que les fermes soient petites, qu'elles restent à dimension humaine, de façon à ce qu'on ne se fasse pas déborder par le productivisme, acheter des gros engins, etc. Donc ils ont des petits tracteurs qui réparent. Enfin bon, c'est tout ça l'idée du modèle de Trémargat. Donc il y a eu ce premier pique-nique, puis après il y en a eu un deuxième quand il y a eu cette nouvelle terre. Et là on a été plusieurs de la ville en fait. Il y avait peut-être, un tiers des gens qui étaient là. Des gens de Saint-Brieuc autour qui avaient participé au financement, qui s'étaient déplacés parce qu'il faut faire trois quarts d'heure de route quand même pour aller là-bas et qui ont participé à l'Assemblée Générale. On était beaucoup d'ici.
avez pris combien de parts, vous ?
Alors, c'était encore 3, je crois. L'argent qu'on a un peu en réserve à la banque, on préfère qu'il serve à quelque chose d'utile et qu'on sait qu'il est utile. Parce qu'aujourd'hui, hein, bah, quand on se dit est-ce que cet argent il va servir pour faire des centrales nucléaires, est-ce qu'il va servir pour acheter des armes, pour quoi faire en fait ? On ne sait pas. C'est pour ça que moi j'ai changé de banque. À un moment donné, j'en avais marre de me dire qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là ? Ça sert à des actionnaires ? Ça sert à qui ? Ça sert pourquoi ? Et donc, en le plaçant dans une banque éthique, mais encore plus là dans un cas comme ça, là on place... avec un objectif que l'on connaît, on connaît les gens, on connaît ceux qui gèrent, on est pour les circuits courts pour manger, hein, aussi éventuellement pour placer son argent. Et la confiance, elle est facile hein, parce que c'est très direct en fait. Hein. Je connais Bruno qui vient sur le marché, je connais Baptiste qui fait ses légumes, j'ai été l'aider là-bas. C'est en direct et en plus c'est sur un territoire qui est tout proche de là où j'habite. Quelque part en achetant ces terres-là, moi en tant que citoyen, je participe à l'aménagement du territoire sur lequel je vis en fait. Je pense que nous en tant que citoyens, on peut prendre en main un peu une partie de notre destin. Si on veut avoir une terre en bonne santé, une belle campagne, avoir de bonnes choses à manger, ben il faut qu'on fasse quelque chose. Nous, on est aussi responsables que les agriculteurs. On ne peut pas les laisser tout seuls se débrouiller face à tous les lobbies chimiques, des sociétés de chasse ou des choses comme ça qui n'est pas dans l'ordre de l'élevage, etc. Cette terre-là, c'est la terre de tout le monde. Et c'est ce que les agriculteurs de Trémargat, ils se battent pour eux-mêmes, mais en même temps, ils se battent pour le bien commun. Bruno, Vincent et puis Baptiste dont on parlait tout à l'heure, c'est des fermes à taille humaine. Donc c'est un modèle que nous, on a envie de valoriser et d'aider à ce qu'il puisse se développer.
La SCI de Trémargat permet donc à l'agriculture paysanne de se maintenir, mais aussi aux Trémargatois de développer leur autonomie alimentaire.
Bonjour.
Anne-Marie et Baptiste, par exemple, sont arrivés à Trémargat avec l'idée de cultiver des petits fruits. En discutant avec les habitants, ils se sont réorientés vers la production de légumes qui n'existaient pas sur la commune.
On avait notre projet de maraîchage, et puis on cherchait un territoire pour s'installer. On a découvert finalement Trémargat. Quand on est arrivé sur Trémargat avec notre projet, on savait que ce serait difficile de trouver des terres libres et puis de les financer aussi. Et on a appris assez rapidement qu'un petit lot de quelques hectares de terres se libérait. Des terres qui étaient déjà convoitées par d'autres paysans en activité. En l'occurrence, Vincent et Guylaine, donc les paysans boulangers du coin, qui cherchaient des terres pour conforter leur exploitation. Et en fait, on nous a laissé la priorité sur ces terres parce qu'on avait un projet d'installation. Donc on était très très étonnés parce qu'on arrivait juste sur la commune. Personne ne nous connaissait, quoi. Il y avait 11 hectares au total. Et on a réussi à se partager le lot. Donc nous, on a pris quelques hectares et Vincent et Guylaine ont pris quelques hectares pour pouvoir faire des céréales, pour être plus autonomes en céréales pour leur pain et les brebis. Peut-être le jour même, ouais, le jour même, on apprend l'existence d'une SCI à Trémargat. Qui peut financer l'acquisition pour nous les relouer juste après. La première étape, c'était de lancer une campagne de souscription, donc pour trouver des souscripteurs qui voulaient bien acheter une ou plusieurs parts. Et ce qui a fait que ça a accéléré les choses, c'est la participation du quartier de Robien à Saint-Brieuc, par l'intermédiaire principalement d'Alain Lefloïc.
Alain Lefloïc qui a organisé une réunion, mais... Moi, je le connaissais pas, je l'avais jamais rencontré, et de but en blanc, je me suis retrouvée dans cette salle, dans le quartier de Robien à Saint-Brieuc, où il y avait une quarantaine de personnes qui nous accueillaient quelque part, on parlait de notre projet, on avait l'impression qu'ils avaient des étoiles dans les yeux, comme si c'était un projet qu'ils auraient aimé porter. À un moment donné de leur vie, mais que là ils pouvaient plus le faire, ou alors j'ai entendu des personnes dire bah moi ça fait longtemps que je cherchais une cause à soutenir et là enfin je trouve un projet qui correspond à ce que je voulais soutenir. Et donc moi j'étais très étonnée.
Et sur une soirée on a dû récolter à peu près un quart du financement du projet quoi sur une soirée. Et puis En quelques semaines, le budget s'est bouclé, donc on n'a même pas eu besoin de prêt bancaire. Il y a eu des gens qui ont pris des grosses parts, il y a eu des gens qui ont pris juste une part, donc c'est pour ça que je pense que la part elle est faite à 100 euros, c'est pour que les gens qui n'ont pas forcément des gros moyens puissent symboliquement acheter une part et s'identifier dans le projet. Les souscripteurs les plus gros, ils ont pris je crois 10 000 euros.
Et comment ça se passe, ces gens-là, ils ont plus de pouvoir dans la SCI que les autres ?
Non, c'est pas complètement proportionnel en fait, c'est plafonné de mémoire à 3 voix en fait dans les assemblées générales. Un souscripteur ne peut pas avoir plus de 3 voix. Du coup, ça équilibre les votes dans les assemblées générales.
Et après, dans vos pratiques, ils ont un droit de regard sur ce que vous faites ?
Dans la pratique, non, ils n'ont pas de droit de regard. En fait, dès lors qu'on paye nos loyers, notre fermage annuellement, il n'y a pas de droit de regard. Après, nous, on organise des chantiers avec eux. C'est-à-dire qu'on invite tous les souscripteurs à venir de temps en temps. On fait plusieurs petits chantiers par an, en fait. L'année dernière, c'était du paillage dans la serre. Donc, on était 6 personnes, peut-être, sur une journée, à pailler tout le sol de la serre. Donc, on organise des pique-niques. On a fait un gros chantier cet été. Là, on était une trentaine de personnes à l'extérieur pour dessiner des planches, planter des patates, repiquer du poireau, etc. Et là, c'était super. C'était une très belle journée. L'aide, elle n'est pas que financière, en fait. Ils nous soutiennent quand ça va bien, quand ça va moins bien. Et puis l'aide, elle est aussi physique parce que quand on a besoin d'un gros coup de main sur des chantiers plus physiques, bah, ils répondent, ils sont là. Je vois par exemple les gens de Robien, ils ne sont pas forcément des gens qui sont habitués au travail de la terre ou au travail physique. Mais il n'empêche que sur une journée, avec eux, on arrive à faire des belles choses.
Nous, on vend nos légumes. On n'a même pas eu besoin d'aller sur les marchés, même pas de vente à la ferme, puisque... Finalement, c'est les habitants du village qui vont acheter nos légumes à l'épicerie du village. Les habitants des villages voisins viennent au restaurant et donc on y mange aussi nos légumes. Et puis les enfants du coin mangent nos légumes à la cantine du village voisin. Et donc nous, on écoule tous nos légumes comme ça pour l'instant. Et on n'a même pas de quoi nourrir tout le monde puisqu'on n'a pas assez de légumes pour l'instant. Mais c'est notre première année, donc c'est prometteur.
Et en fait, comment ça s'est passé pour que même une cantine scolaire fasse appel à vous ?
Il se trouve qu'on a fait un pique-nique avec les gens de la SCI et il s'y trouvait la cuisinière de la cantine de l'Henri Vin qui était là. Et donc, elle avait l'air de vouloir soutenir notre projet et elle a parlé avec Baptiste. Mais
à cette époque, la municipalité de l'Henri Vin n'avait pas voté le passage de la cantine en bio. Et donc ça s'est fait quelques mois après. Et du coup, c'est un conseiller municipal qui m'a appelé un jour en me disant « Voilà, on vient de voter ça au conseil municipal. Donc on veut mettre le plus possible de bio à la cantine. Donc dès que tu peux livrer des légumes à la cantine, tu le fais. » Donc la cantine, c'est des petits volumes. C'est une petite école, c'est 22 repas par midi. Donc 4 fois par semaine. C'est moi qui vais, en général, une fois par semaine, le lundi matin, livrer avec... ma petite voiture, les légumes à la cantine directement. Après, on va passer le relais déjà à quelqu'un, parce qu'il y a un maraîcher qui s'installe sur l'Henri Vin. Et du coup, je lui ai déjà proposé de prendre ce relais, parce que nous, on a déjà largement de quoi faire, de façon très très locale, sur Trémargat, entre l'épicerie et le restaurant. Parce qu'il sera encore plus proche, et puis qu'il a peut-être pas autant de débouchés que nous, pour commencer.
Il y a quelques semaines, la SCI de Trémargat s'est lancée dans un tout nouveau projet, l'acquisition d'un bâtiment industriel de 400 m² pour donner vie à la SAGA, ou Société Autogérée d'Activité. C'est un projet inédit en milieu rural, qui est en cours de recherche de fonds et donc de nouveaux souscripteurs. Il est porté par 10 habitants, dont Marilia et Pauline.
À l'origine, en fait, on était plusieurs personnes du village à se dire qu'il nous manquait un lieu pour faire des choses communes. Et du coup, il y avait ce lieu qui était au bout du village, un grand hangar qui nous intéressait bien, qui était vraiment exactement ce qu'on recherchait, parce qu'on avait envie de faire des choses un peu de la bricole, des ateliers pour faire de la soudure, de la meuleuse. Il y avait aussi des copains qui font des choses de leurs mains aussi, qui travaillent le bois, qui travaillent la vannerie.
Avec une cuisine collective, avec des ateliers collectifs, on mettrait à disposition des espaces pour des artisans, pour des gens qui, voilà, qui ont aussi leur activité. C'était ça le projet.
Et il y avait ce lieu qui nous faisait de l'œil.
C'était quoi ce lieu ?
Ben en fait, c'est une ancienne carrière qui a été ensuite investie par une entreprise de construction et abandonnée depuis 5 ans. Donc, qui était là, il servait à rien. Et nous, on a eu envie de le squatter. Parce qu'on voulait remettre en cause cette idée de propriété privée qui fait que dans beaucoup de villages, voilà, il y a les jeunes qui ont des envies, qui ont de l'énergie, et ben ils n'ont pas les sous pour accéder en fait au foncier. Donc on a ouvert un squat au début, hein. Et là, le fait qu'on fasse ce squat, donc tout de suite ça a réagi derrière, tout de suite on a eu une procédure judiciaire, tout de suite on a ouvert la question de ce lieu et du projet qu'on avait envie de mettre en place à tout le village. On a posé la question au village, et c'est à ce moment-là que la SCI effectivement a dit, bah nous on trouve que c'est un projet intéressant, on peut faire les démarches pour acquérir le lieu et vous le mettre à disposition.
On a ouvert nos portes, donc assez rapidement on a mis en place des chantiers et où on a invité les gens. Et puis c'était drôle parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas dans le projet, qui ont dit « Ah bah moi aussi j'ai un rêve pour ce lieu, un atelier d'art floral ». Et il y avait quelqu'un qui disait « Bah voilà, moi je fais de la mécanique depuis longtemps, on se disait « Bah voilà, on est tous à bidouiller nos voitures, à faire nos vidanges, mais on n'a pas d'endroit pour les faire ». Et du coup, bah, là, ça serait un endroit où il y a de la place. On pourrait avoir un vrai lieu couvert où on peut bricoler.
Parce que là, pour réparer votre voiture, si c'est un peu compliqué, bah voilà, vous devez faire ça. Combien de kilomètres par
exemple ? Tu fais 13 kilomètres au moins.
Ouais, et puis surtout, tu ouvres ton portefeuille, quoi.
Oui, bah.
Enfin,
oui.
Moi, personnellement, j'avais des réparations à faire sur ma bagnole. Si j'allais chez le mécano, ça me coûtait 2 mois de salaire, quoi. Et clairement, c'est pas possible. En fait, j'ai pas le choix. Et en même temps, je trouve ça vachement plus riche. J'ai appris énormément de trucs sur comment fonctionne un moteur. Et
ouais, voilà, c'est redevenir autonome aussi sur certains pans de vie, quoi.
Et alors là, on a commencé à dire « Ah ouais, mais on pourrait même aller sur la mécanique agricole pour faire un lien avec les agriculteurs aussi, pour qu'ils puissent être plus autonomes. Et pour faire rentrer un tracteur dans un endroit couvert et pouvoir faire de la mécanique, et ben c'est pareil, il faut de la place et des connaissances. Mmh. » Quelqu'un qui est venu en disant « Bah voilà, pourquoi pas une maison de la semence pour qu'on puisse, en tant que jardinier, de pouvoir échanger nos graines, de pouvoir dire « Bah tiens, cette année, moi j'ai eu plein de graines d'épinards, paf, je les mets à disposition et pouvoir les stocker. »
Moi, personnellement, j'aimerais bien mettre en place un pressoir de pommes, de cassis, de de tout.
Pour faire du jus.
Oui, pour faire du jus, oui. Et de manière collective, mettre en place un atelier de conservation alimentaire qui pourrait être ouvert à tout le monde. Qu'on ait des grands établis avec des bocaux, avec des bacs alimentaires, avec un stérilisateur, avec un autoclave, voilà, qu'on ait du matériel, qu'on puisse voilà, aller là-bas, utiliser la cuisine collective pour faire nos bocaux et puis pour faire de la conservation, qui est un séchoir solaire.
Pour sécher les plantes aromatiques.
Ouais, voilà, des plantes aromatiques, des champignons, des légumes de récup. Du coup, si t'as des récup, y en a qui sont super forts pour faire de la récup. Si on a moyen de la conserver, après on peut être dans une démarche de solidarité aussi et d'accueil. C'est aussi intégrer les enfants à ce projet. Parce qu'on est beaucoup à être seul avec nos enfants. Et on est beaucoup à chercher un fonctionnement collectif un peu un mode de vie collectif, donc autour de lieux collectifs où on puisse venir, où on est, où les enfants ils aient des outils à disposition, où il y a des savoir-faire qui sont là sous leurs yeux, qu'ils peuvent dire « Ah ça, ça m'intéresse, je vais prendre un marteau, un truc, un bidule, je vais fabriquer quelque chose » et être accompagné là-dedans, c'est-à-dire pas que ce soit cloisonné. Enfin, pour moi, c'est un projet qui peut réunir vie de famille, vie du travail, vie sociale, quoi. Et dans lequel on peut aussi intégrer l'apprentissage autonome de nos enfants. Et aussi l'apprentissage qu'eux, ils vont faire de la vie collective. Voilà, pour moi, c'est innovant dans ce sens-là, quoi. À chaque projet, il y a des gens qui mettent des parts, qui s'engagent dans cette SCI. Finalement, ça commence à regrouper quand même beaucoup de gens et beaucoup de terres. Donc, si on extrapole, finalement, à Trémargat, la terre, elle va appartenir à une SCI dont les sociétaires sont Habitat Trémargat, mais pas que. Et du coup, il y a une possibilité de gestion de la terre d'une manière collective, quoi. Quand même, ça permet de poser des lignes idéologiques un petit peu de qu'est-ce qu'on veut faire de la terre, quoi.
Changer le monde, épisode 4, c'était un reportage d'Inès Leroux réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Bruno Gégou, à Alain Le Floïc et Claude, à Baptiste Gilbert, à Anne-Marie, à Marilia Petit, à Pauline ainsi qu'à Eric Hamon. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Nino Lima, notre stagiaire. Et si vous voulez en savoir davantage, rendez-vous sur le site France Culture, à la page des Pieds sur Terre. Et bien sûr, vous devez vous abonner à notre podcast, mais je suppose que c'est déjà fait.